Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche, Case et Bulle, où nous allons ensemble, c'est-à-dire vous et moi, car Christol Seck n'est pas là aujourd'hui, parler de bande dessinée. C'est un hasard, non, c'est une surprise, pas du tout. On va prendre trois albums. Frankenwood, une comédie noire en parodie-rama aux éditions Dupuis, La longue marche de Lucky Luke aux éditions Lucky, autrement dit aux éditions d'Argo, et Gigi, une adaptation de Colette aux éditions d'Argo aussi. Ce sont trois albums qui sont très différents, et d'abord qui sont totalement différents par le trait. On a d'habitude de parler de bande dessinée, évidemment en parlant des scénarios, car c'est quand même l'histoire qui nous attrape, mais c'est le dessin qui nous retient. Et ici, ce sont trois dessins qui sont vraiment très différents. Le dessin du premier, c'est-à-dire Frankenwood, donc un album intéressant, avec un dessin notamment de Igor Corday, qui est très surprenant, qui est quasiment photographique, et où il y a des effets de matière assez surprenants, et un ton graphique noir, évidemment. C'est une histoire un peu incroyable. C'est une histoire qui fait très nettement penser au film Seconds de John Frankenheimer. John Frankenheimer, immense cinéaste qui a réalisé en noir et blanc quelques chefs-d'œuvre, et notamment The Manchurian Candidate, je ne sais pas si vous vous souvenez, où un soldat américain, pendant la guerre de Corée, se fait laver le cerveau, revient aux États-Unis et programmé en fait pour tuer un candidat à l'élection présidentielle. C'est un film excellent, particulièrement inquiétant, avec un officier coréen absolument atroce qui, manipule le cerveau des Américains avec une maestria incroyable. Et c'est surtout, bien sûr, la mise en scène de Frankenheimer qui est remarquable. Et donc l'autre film, Seconds, est un film qui a été très mal accueilli en 1966 quand il est sorti, et qui est devenu culte, comme on dit aujourd'hui, en quelques années, ou qui nous raconte la manière dont des gens ont droit à une nouvelle vie, et leur corps, en fait, on leur prête un nouveau corps. Et donc je peux pas vous raconter le film Seconds, ce qui est vraiment quelque chose de remarquable, où là aussi on a à la fois la mise en scène de l'American Way of Life comme étant une vitrine agréable faite de jolies filles blondes en train de boire de la bière sur une plage, et en même temps tout le côté sombre qui sont les entrepôts dans les grandes banlieues, où de noirs dessins sont perpétrés. Là, on se retrouve avec Humphrey Bogart, ou en tout cas quelqu'un qui pense non pas être Humphrey Bogart, mais quelqu'un qui est persuadé être Sam Spade, ou peut-être Sam Marlowe. Il ne sait pas très bien. Il ne sait pas très bien qui il est. Et en fait, on comprend peu à peu que lui, Marilyn Monroe, qui lui demande d'enquêter sur elle-même en lui disant « J'aimerais que vous m'aidiez à trouver qui m'a tué moi », dit-elle, bien vivante. Et peu à peu, on comprend qu'il y a une espèce de conspiration hollywoodienne où les studios ont inventé un moyen qui leur permet de ressusciter les corps, pourvu qu'ils ne soient pas trop abîmés, et y compris des corps de gens décédés depuis 2, 3, 4, 5 ans, pour que le personnage qui a la faveur du public continue à exister, et évidemment permette de continuer à produire des films, et permette de continuer à faire marcher l'industrie du cinéma, qui, ayant investi beaucoup d'argent pour créer des icônes, comme on dit aujourd'hui, a besoin, bien sûr, que ces icônes soient vivantes, quel que soit le cancer du poumon dont elles sont victimes, comme par exemple Humphrey Bogart, qui ressuscite, mais où on lui a enlevé le goût de la cigarette. Et voilà, Humphrey Bogart, Lorraine Bacall, de Laurel et Hardy, et Marilyn Monroe, Alfred Hitchcock et sa femme composent une espèce d'histoire très étrange, où on est un peu plongé dans l'ambiance évidemment de Sam Spade et Philip Marlowe. On est plongé dans l'ambiance de ces romans des années 30 à 50 qui ont fait la fortune de Dashiell Hammett, Raymond Chandler surtout, évidemment, en l'occurrence surtout Raymond Chandler, parce que chez Raymond Chandler, vous l'avez remarqué, il y a toujours un moment où le héros est flottant, il passe sa vie à se faire assommer, à ne rien comprendre, l'histoire se résolut quasiment sans lui, et néanmoins l'enquête est passionnante, cette enquête où il est presque le spectateur de lui-même. Et là, Humphrey Bogart est lui aussi dans cette espèce d'état second où il essaye peu à peu de comprendre, nom d'un chien, qui est ce Bogie dont les gens lui parlent, alors que lui-même, ressuscité, n'a le sentiment que d'être une espèce de composition de ces différents personnages. L'enquête avance avec donc ce traitement quasi photographique, mais qui est vraiment dessiné, ces couleurs qui sont toutes un peu grises, un peu adultérées, un scénario très noir, mais qui n'est pas non plus absolument abominable. Je veux dire, c'est très noir au sens film noir, où bien sûr, ce sont tous les enjeux en fait de la manière dont aujourd'hui on essaye de ressusciter avec l'intelligence artificielle, avec les techniques numériques, les grandes stars défuntes, qui est intéressant. Je ne sais pas si vous avez suivi dans l'actualité, mais celui qui jouait Ice dans le film avec Tom Cruise, Top Gun, et dont visiblement je suis en train d'oublier le nom, va être ressuscité dans un film, la famille ayant donné au réalisateur le droit d'utiliser l'ensemble des... Val Kilmer, voilà. Val Kilmer donc va être ressuscité dans un film sous forme numérique, comme l'avait été Peter Cushing dans la dernière trilogie de Star Wars, donc où il jouait à nouveau le rôle de l'amiral maléfique. Et bien là, c'est pas juste Peter Cushing pendant quelques instants, ou même la princesse Leia dans l'un des derniers films pendant quelques instants, c'est tout Val Kilmer pendant un film qui va être ressuscité. Et donc on sait qu'on est capable, effectivement, et on a vu dans certaines vidéos où Tom Cruise et Brad Pitt se battent à main nue avec une maestria incroyable pour des gens de leur âge, mais c'est normal, c'est une intelligence artificielle chinoise qui a produit cette courte vidéo. Voilà, aujourd'hui on est capable de ressusciter les icônes, aujourd'hui on est capable de faire un film si on a envie, avec Marilyn Monroe et Laetitia Casta réunies dans un casting éblouissant, ou au contraire dans un casting absolument misérable, suivant ce qu'on pense de ces deux actrices. Et Frankenwood nous raconte d'une certaine manière, avec Frankenstein, Hollywood, nous raconte la manière dont l'industrie du cinéma est en fait faite de mort-vivant d'une certaine manière. Et c'est presque d'ailleurs la manière dont nous allons nous-mêmes questionner notre amoureux rapport au cinéma. Dans quelle mesure notre cinéphilie n'est-elle pas à la limite de la nécrophilie? Dans quelle mesure la manière dont notre affection et notre intelligence sont tournées vers des acteurs morts dont les corps s'agitent sur des pellicules n'est pas aussi une espèce de rapport un peu sombre à une partie de notre culture, voilà, qui valorise, et surtout avec ces images animées, qui valorise une espèce de vie artificielle. Bon, là, je vais chercher très loin, mais Frankenwood, en tout cas, a le mérite, d'une part, d'avoir un dessin tout à fait intéressant. Et Igor Corday est né à Zagreb, en Croatie, et il y a plusieurs auteurs comme ça qui viennent d'Europe centrale, qui ont un style bien à eux. Ça fait aussi un peu penser au dessin de Corben, ce dessinateur américain, qui lui aussi a quelque chose qui se rapporte un peu à la photographie. Donc, plastiquement, c'est intéressant. Le scénario est entre guillemets plaisant, parce qu'évidemment, voir cet épigone, cet avatar d'Humphrey Bogart ressuscité régulièrement et à chaque fois comprendre un peu mieux ce qui se passe, mais ne rien y comprendre quand même. On a aussi un tout petit peu l'impression de se retrouver dans le film Memento, qui était l'un des premiers films de Christophe Nolan, avec ce personnage qui part à la recherche de l'assassin de sa femme et qui en fait est un amnésique permanent, donc avec une amnésie rétrograde qui fait qu'il ne se souvient, il arrive à marcher, il arrive à conduire une voiture, il sait parler, mais il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qui s'est passé la veille, et qui se tatoue sur le corps tous les indices qu'il trouve, et qui essaye à chaque fois, en fonction des indices qu'il a rassemblés, de reconstituer toute son histoire chaque matin. Donc, très bon film. Bon, voilà, mais on a l'impression que je parle plus de cinéma que de bande dessinée. Frankenwood chez Dupuis, voilà, jetez un œil sur l'album. Ce n'est pas une histoire passionnante en tant que telle, mais en tout cas, laissez votre imagination s'envoler pour vérifier dans quelle mesure ça ne questionne pas votre rapport aux vieilles images, et évidemment votre rapport à la bande dessinée, et votre rapport à Hollywood comme machine, bien sûr, à fabriquer du rêve, mais machine assise sur un tas de cauchemars. Le deuxième album, qui est tout à fait intéressant aussi, c'est La Longue Marche de Lucky Luke, de Mathieu Bonhomme. Là, on change radicalement de style. Mathieu Bonhomme, donc c'est le marquis d'Anaon, entre autres, qui a assuré sa renommée. Et c'est le troisième album d'hommage à Lucky Luke qu'il produit, donc aux éditions Lucky Comics, qui sont en fait une filiale de Dargo, en s'éloignant encore un peu plus du modèle de Maurice. Dans ses deux premiers albums, il avait bien sûr repris tous les canons, et notamment ce sur quoi j'insiste chaque fois que je parle de Maurice, son utilisation absolument psychédélique des couleurs, avec ces aplats rouges, bleus, jaunes, violets, qui viennent transformer complètement l'image et la déréaliser d'une certaine manière, la transformer presque en vignette 19e. Et là, on a bien ce sens du mouvement. On a aussi, avec Mathieu Bonhomme, quelqu'un qui maîtrise, bien sûr, le canon Maurice. Alors, quand je parle du canon Maurice, j'ai tendance à considérer que ce sont uniquement les albums qu'il a produits avec l'aide de Goscinny au scénario, c'est-à-dire j'oublie les 4-5 premiers albums, je crois que c'est au cinquième album que Goscinny débarque, donc les deux premiers sont d'ailleurs dans un style qui n'est absolument pas celui que Maurice adoptera ensuite, et ensuite tout ce qui suit le départ de Goscinny est souvent médiocre du point de vue du scénario. Voilà, les albums absolument phares, c'est Lucky Luke et les pieds bleus, la ville fantôme, les Otimins contre les O'Hara, etc. Donc j'ai du mal à trouver un seul nom propre et même un seul nom d'album en ce moment. Ici, Lucky Luke part pour défendre un jeune garçon enlevé par les Indiens et qui en fait est cherché par sa véritable famille, mais non pas pour le sauver et l'arracher aux Indiens, mais au contraire parce que le jeune garçon est l'héritier d'un empire industriel et l'oncle maléfique veut détruire son neveu pour définitivement capter l'empire industriel à son profit. Comme d'habitude avec Mathieu Bonhomme, il y a une réflexion sur le personnage de Lucky Luke, où il le déconstruit un tout petit peu, alors pas au point où Bruno et Apollo l'avaient détruit dans le dernier hommage à Lucky Luke qui était paru. On en avait parlé, c'était une série d'histoires courtes qui se situe avant que Lucky Luke ne devienne Lucky Luke, c'est-à-dire c'était presque la préhistoire de Lucky Luke avant que Maurice ne forme tout ce qui va forger le style de Lucky Luke, la personnalité de Lucky Luke, les épisodes récurrents à coups de bagarre et de départ en chantant I'm a poor lonesome cowboy. Là, c'est un autre type de réflexion où on n'essaie pas de déconstruire le personnage. Il y a de multiples clins d'œil. On retrouve évidemment les Dalton, on retrouve les pieds bleus. Il y a un personnage féminin assez rapide qui est aussi joli que tous les personnages féminins que dessine Mathieu Bonhomme, qui visiblement a adopté un seul modèle et qui le décline à l'envi dans tous ses albums. La personne en question ressemble par exemple à Charlotte Impératrice, les trois volumes qu'il a fait paraître sur la vie de Charlotte, impératrice malheureuse du Mexique. Et là, on croise aussi d'autres figures du western. Par exemple, l'un des personnages s'appelle Jeremiah Johnson. Donc, ça, évidemment, ça rappellera quelque chose à tous ceux qui aiment les westerns des années 70. Il y a une maestria graphique qui est vraiment celle de Mathieu Bonhomme, qui a un dessin qui tend véritablement vers la ligne claire, qui est très épuré. Il y a quelques poils quand les bisons sont en train de charger. Mais fondamentalement, on est dans la simplification de la ligne. On est dans une grande souplesse du dessin. On est dans une véritable élégance, en fait, de la mise en page, avec quelques coquetteries de temps en temps, mais qui sont particulièrement bienvenues. Le découpage est admirable. Il y a de grandes cases avec des paysages superbes. On sent que Mathieu Bonhomme aura sans doute son exposition chez Daniel Maguen, où il pourra montrer des planches formidables. Lucky Luke, c'est son troisième album. L'homme qui tue Lucky Luke était une parodie sur la manne, évidemment, à chaque fois, c'est l'homme qui tue Liberty Valance. Wanted Lucky Luke était assez amusant. Cette longue marche, c'est un hommage aussi, évidemment, à travers Jeremiah Johnson, à la manière dont on nous montre un Lucky Luke pas du tout urbain et entièrement plongé dans un environnement naturel dont il ne s'échappe quasiment jamais du début jusqu'à la fin. Voilà. D'habitude, Lucky Luke, il y a toujours une ville, il y a toujours un saloon, il y a toujours une bagarre. Là, ni ville, ni saloon, quelques bagarres, mais mincissimes. Il y a à peine un avant-poste. Donc, on est vraiment dans l'univers de ces contre-westerns, pour le dire de cette manière-là, des années 60, 70, 80, tout début 80, et surtout la décennie 70, où on revisite la figure du cow-boy. On en profite, bien sûr, pour revisiter la figure de l'Indien qui devient un sage. Et là, en l'occurrence, bien sûr, les Indiens sont représentés par la tribu des Pieds Bleus, évidemment beaucoup moins grotesque et caricatural que dans l'album où Lucky Luke rencontrait les Pieds Bleus en train de hurler « mort à Daisy Town », on est là, et pardonnez-moi de ce « on a », ça ne rime à rien, il y a Wakantanka qui, par la voix de non pas de Puma Noir, mais de l'autre chef, sont en train de se présenter comme étant, bien sûr, les vrais fils des Amériques. Ceux qui sont capables de garder l'esprit de la nature, ceux qui sont capables de préserver les forêts. Donc, ce sont des Indiens qui sont en résonance avec Waldo Emerson et les autres, qui sont en résonance avec ce mouvement naturaliste qui commence aux États-Unis et où, face à la conquête de l'Ouest, à l'urbanisation croissante, à l'empuantissement des vertes prairies à cause des chemins de fer, on commence à se dire non, il faut préserver la nature et il faut préserver une nature inviolée. Et donc, évidemment, ces Indiens sont de ce bord-là, puisque le méchant milliardaire qui cherche à tuer son neveu a bien sûr une entreprise de bûcheronnage et ils sont en train d'abattre des hectares et des hectares de forêt, faisant ainsi fuir le gibier. C'est vrai que l'exploitation du bois au 19e est parallèle avec l'exploitation du charbon et qu'il y avait une incroyable consommation de bois pour fabriquer évidemment tous les échafaudages et tous les étés dont on avait besoin pour creuser les mines de charbon et pouvoir y circuler. Et il y a eu une déforestation. Donc là, les Indiens sont une fois plus le symbole de cette nature dans laquelle l'homme se glisse sans l'abîmer, sans l'exploiter et Lucky Luke est bien sûr du côté des gentils, une fois plus, et pas du côté des méchants, avec la même idée que celle qu'a eu Blutch dans son album avec Dommage à Lucky Luke, l'idée de coller un enfant dans les pattes de Lucky Luke. Lucky Luke étant le célibataire par excellence, celui qui boit un whisky de temps en temps, ne fume plus bien sûr, puisque donc on n'a plus le droit de fumer dans les albums de Lucky Luke, donc il mâchonne un brin d'herbe en permanence, ce qui est d'ailleurs un des gags récurrents et ironiques avec lequel Mathieu Bonhomme met en scène notre héros, se retrouve flanqué d'un gamin de 8-10 ans qui évidemment est un peu rebelle, un peu taquin, et ne refuse de lui obéir car il n'a pas du tout le sentiment que Luke est quelqu'un de respectable. Donc bon, ce sont des scènes amusantes où Lucky Luke est comme un canard qui a trouvé un parapluie et voilà, il est capable de tirer sur des bandits, il est capable de casser la figure à tout un tas de gens, il est capable de parler à un shérif et à un directeur de pénitencier, mais un enfant de 10 ans, c'est un animal bien plus redoutable et voilà. Et Jolly Jumper d'ailleurs ne l'aide pas du tout dans cette histoire. L'album est voilà, des coloris qui sont vraiment dans la palette de Maurice et en même temps toutes ces neiges bleutées, on sent qu'il est allé chercher son inspiration ailleurs. J'ai déjà parlé de ce dessin impeccable avec ces grandes cases naturalistes qui sont jolies comme tout. Il y a beaucoup de citations de films donc de ces années-là, avec notamment les méchants qui sont uniquement des ombres noires où seuls luisent les lunettes, parfois un reflet sur un chapeau et ce ne sont que des silhouettes mouchetées de neige. Les Dalton sont évidemment crétins comme il le faut, mais là, ont l'air un peu plus féroces et un peu plus méchants. C'est très amusant, les Dalton, et on retrouve aussi le caporal Pendergast à un moment donné, les Dalton ont presque une figure qui est calquée sur la manière dont Maurice les dessine, alors que Lucky Luke est une recréation un peu originale. Et donc, les Dalton paraissent en léger décalage avec le reste. Ils sont tellement réussis dans le mimétisme bonhomme Maurice qu'ils sont presque caricaturaux par rapport aux autres personnages. Vraiment, cette série des albums de Lucky Luke réinterprétés par Mathieu Bonhomme vaut le coup. Le troisième album est... évidemment, on est moins dans la découverte. Et d'ailleurs, c'est sans doute symptomatique que Mathieu Bonhomme soit allé chercher un autre univers que l'univers urbain habituel chez Lucky Luke. Mais il a mille mérites de dessin et quelques trouvailles de scénario. C'est un album plaisant, à défaut d'un album absolument nécessaire. C'est le moment de vous dire ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, que Radio Courtoisie vit grâce à vous, vit grâce à vos dons, tous canaux confondus, en tous canaux directs confondus. Vous êtes 1 million à nous écouter, entre ceux qui se branchent sur YouTube, ceux qui se branchent sur X, ceux qui nous écoutent avec le site internet et ceux qui nous écoutent sur les ondes hertziennes. 1 million chaque semaine, voilà, c'est plaisant. Vous êtes plusieurs milliers à nous donner de l'argent, merci, c'est très gentil. Voilà, si les 980 000 qui ne nous donnent pas encore avaient la gentillesse de nous donner ne serait-ce qu'un ou deux euros, même pas par semaine, même pas par mois, mais 1 ou 2 euros par an, les choses iraient beaucoup mieux. Voilà, on ne vous demande pas beaucoup. C'est assez simple, soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr, et ça vous permet de faire un don minuscule. Voilà, si jamais vous avez envie d'aller un peu au-delà du minuscule, n'hésitez pas. Le dernier album est un album publié chez Dargo. C'est Gigi, d'après Colette, dessiné par deux personnes, Bouillac et Catel, autrement dit Claire Bouillac et Catel Muller. Catel a écrit avec José-Louis Bouquet, ou plutôt a publié avec José-Louis Bouquet plusieurs albums, comme Kiki de Montparnasse, et qui était le premier d'une longue série sur les femmes célèbres, ou qui mériteraient de l'être. Et par exemple, Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Joséphine Becker, Alice Guy, dont on a parlé ici il y a quelques années, Anita Conti. Et voilà, un trait intéressant, mais pas remarquable, quelque chose qui tend vers les purs, minimaliste, mais pas non plus si minimal que ça. En tout cas, grande lisibilité, grande habileté à rendre ses figures, un trait assez souple, mais la véritable révélation, en tout cas pour ceux qui ne connaîtraient pas son œuvre, qui est quand même un peu abondante, mais même si là on sent un autre dessin, c'est Claire Bouillac, qui vraiment un trait admirable. Et donc cette histoire mise en scène par Claire Bouillac de Gigi, donc le roman de Colette, est absolument remarquable. Dans l'esprit du roman, les dialogues évidemment reprennent une partie des dialogues de Colette. Il n'y a aucun récitatif, donc il y a un effort de scénario très important pour éviter de remplir une petite case avec un narratif qui viendrait nous expliquer ce qui se passe entre deux scènes. Là, c'est tout le roman qui est particulièrement bien adapté, avec une Gigi débordante de vie. Et le dessin, là aussi, est assez souple, mais en même temps réussi à instiller un nombre de précisions dans la physionomie de Gigi, qui est extrêmement animée, réussi évidemment à reprendre soit les mots même que Colette prête à Gigi, avec ce vocabulaire d'une adolescente en train de devenir femme, encore un peu enfantin, déjà dans un autre jeu, et surtout cette famille un peu incroyable, en fait, qui élève Gigi, d'une part, comme étant un capital à préserver, soit à donner à un honnête homme qui lui assurera une honnête aisance, soit à vendre à quelqu'un qui a des vues, comment dire, moins honnêtes sur Gigi, mais à condition que l'argent retiré, et donc dont la famille espère bien tirer profit, soit plus abondant. Et c'est une histoire assez terrible, mais avec des personnages qui sont très forts, la mère, la tante, l'autre tante, la grand-mère, l'amoureux, sont très bien dessinés à tous les sens du terme. Non seulement ce sont des personnages qui existent, et avec d'ailleurs une bande dessinée qui refuse la facilité, puisque il s'agit fondamentalement de la manière dont on va vendre une gamine à un homme qui a été malheureux en amour avec les différentes maîtresses qu'il a alignées. Et donc il s'agit en fait de marcher dans la rue pour aller d'un salon à un autre, de rentrer dans une chambre pour discuter. Il y a quelques grandes pages avec un amour visiblement de Madame Bouillac pour représenter les intérieurs bourgeois. On sent qu'elle s'est documentée, on sent qu'elle a aimé en fait représenter ce que Colette raconte, et qu'elle... On est là, d'ailleurs, dans une véritable réussite. C'est une adaptation en bande dessinée, mais si jamais on avait demandé à Claire Bouillac de faire une édition illustrée de Gigi, on aurait sans doute eu quelque chose de, d'aussi réussi, mais malgré tout, qui n'aurait pas cette vivacité, une fois de plus, de la bande dessinée, avec la manière dont, en variant les plans, en effaçant le cadre, ou au contraire, en dessinant tout le décor, on réussit à, pour une simple conversation qui s'étale sur plusieurs pages, à varier et à animer terriblement la manière dont on peut rendre la vie et rendre le mouvement. Je suis véritablement séduit par l'album, plus d'ailleurs que je n'avais été séduit par Gigi quand j'avais lu le roman. Voilà, sachant évidemment que la seule Gigi qui vaille, c'est bien sûr Audrey Hepburn, comme dirait Laurent Dandrieu, voilà, puisque donc Gigi a été adapté aussi avec Audrey Hepburn. Voilà. Bouillac et Catel, d'après Colette, Gigi aux éditions d'Argo, La longue marche de Lucky Luke, de Mathieu Bonhomme, qui a à la fois scénarisé et dessiné, et qui peut-être serait inspiré en s'aidant d'un véritable scénariste la prochaine fois, même s'il a produit lui-même de très bons albums. Mais je trouve que entre les albums qu'il dessinait et scénarisait tout seul il y a quelques années et ce Lucky Luke, il y a un petit défaut d'imagination. Et enfin, Frankenwood, de Darko Magan et Icor Corday, qui est surprenant et une fois de plus intéressant à lire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, enfin merci beaucoup de m'avoir écouté, mais d'avoir été avec moi pendant ce planche 4 zébules, et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine, à samedi.